Radio Kapi. Oh, Kapi.
L'insécurité au Nord Kivu et en Ituri a entraîné une déperdition scolaire de plus de 750 000 enfants. Ces chiffres sont donnés par l'UNICEF dans un communiqué de presse rendu public hier à Goma. L'agence onusienne précise que 2100 écoles du Nord Kivu et de l'Ituri ont été contraintes de cesser leurs activités à la suite de la détérioration de la situation sécuritaire. La loi Tchiani menace la cohésion nationale et risque de déstabiliser complètement les institutions du pays et de diviser les peuples. C'est l'avis des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Ils se disent vivement préoccupés par la programmation à l'Assemblée nationale de cette loi qui verrouille le poste de président de la République au seul Congolais de père et de mère. Docteur Bonheur Tshiteku, chef de la division provinciale de la santé du Kasaï Oriental, est notre invité. Il va parler du lancement aujourd'hui en Mbujimayi de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans cette province. Bonjour à tous. Au micro, Noëlla Luzitu Kabambi. En RDC, 750 000 enfants ont été privés de l'éducation au Nord Kivu et en Ituri, deux provinces affectées par les conflits à l'Est. Dans un communiqué de presse rendu public à Goma hier, l'UNICEF indique que 2100 écoles du Nord Kivu et de l'Ituri ont été contraintes de cesser leurs activités par la suite de la détérioration sécuritaire. Les enfants en âge scolaire payent un prix inacceptable à cause des conflits et de l'insécurité croissante à l'est de la RDC, a déclaré le représentant de l'UNICEF au Congo Kinshasa. Le point avec vous, Sifa Maguru.
L'insécurité a affecté plus de 240 000 enfants récemment déplacés qui vivent dans des vastes camps autour de Goma, indique UNICEF. Des centaines de milliers d'enfants qui devraient apprendre en toute sécurité ont été déplacés et vivent dans des conditions déplorables dans des vastes camps surpeuplés. Seule une minorité d'enfants peuvent accéder à des espaces amis des enfants soutenus par l'UNICEF ou à des centres d'apprentissage temporaires, poursuit cette agence spécialisée de l'ONU. L'UNICEF rappelle que 119 écoles ont été attaquées ou occupées ou temporairement utilisées par des groupes armés. 1700 écoles ont été fermées à cause de l'insécurité persistante ou parce qu'elles se trouvent dans des zones occupées. Cependant, plus de 300 écoles ne fonctionnent pas parce qu'elles servent d'abri pour les déplacés. Rappelons que plus de 800 000 personnes ont été contraintes à fuir leur foyer seulement en Nord Kivu depuis le début de la crise du M23 en mars 2022, précise ce communiqué de presse. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
On signale tout de même une reprise timide depuis lundi dernier des activités scolaires dans plusieurs établissements du primaire et des secondaires de la chefferie de Bachou dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Après plus de deux semaines d'arrêt dû aux attaques des rebelles de ZADF ayant fait de nombreuses victimes et causé le déplacement massif de la population. Guylaine Kassassia nous fait le point.
Ce sont des écoles du groupement Boliki et Malio, mais aussi du village Kirindera, Karuruma et d'ailleurs de la chefferie de Bachou. À cause de ces attaques successives des ZADF, plus de 180 écoles primaires et secondaires avaient fermé leurs portes. Depuis ce lundi, plus de 50% de ces écoles ont timidement repris les activités, ce que confirment les trois chefs des sous-divisions de l'EPST, notamment ceux de Kiondo, Oisha et de Boulongo qui se partagent la responsabilité dans cette zone. Ces autorités scolaires appellent les élèves qui hésitent encore à s'y en vue de rattraper le programme d'enseignement. Ils disent se remettre à leur hiérarchie pour des dispositions pouvant leur permettre de récupérer les temps perdus sur les calendriers scolaires. Rappelons que tous ces élèves n'ont pas passé les examens du deuxième trimestre. Nous n'avons pas réussi à joindre les chefs de la province éducationnelle au Kivu 2 pour sa réaction. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Pendant ce temps sur le terrain au front, des affrontements ont repris tôt ce matin dans la région de Mueso-Kashuga, dans le groupement Bachali Mokoto, territoire de Masisi au Nord Kivu. Ces combats opposent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise contre les FRDC et forces d'autodéfense. Depuis ce matin, une certaine panique s'observe à Kashuga. La population s'est volatilisée dans plusieurs directions. Toutefois, dans la région de Bihambwe, il règne une accalmie précaire dans la matinée de ce jeudi. Certains habitants tentent de regagner leur maison, mais sans assurance, indiquent de sources sur place. Le point avec vous, Blaise Shindani Kambala.
C'est depuis une semaine environ que les rebelles rebelles du M23 mettent la pression dans cette région et progressent dans les agglomérations en direction de Kashuga sur l'axe Massissi-Pinga-Walikale. Des sources dans la région rapportent que ces affrontements ont suscité la psychose et la population s'est déplacée en direction des villages Ioula, Katobo, Massiza, Kalembe et d'autres dans les champs. Dans un communiqué de FARDC rendu public hier 29 mars, l'armée a dénoncé une fois de plus ces attaques des rebelles du M23 à Mweso et qui se poursuivent vers Kashuga. L'armée a également pointé du doigt le Rwanda qui serait en train d'acheminer des renforts en troupes et en équipement en faveur du M23 en RDC. Par ailleurs, la situation de Biambwe reste incertaine, affirment nos sources. Les rebelles sont toujours retranchés sur les collines de Kasiza et Kabaya, surplombant la cité de Biambwe, tandis que les forces d'autodéfense seraient déjà rentrées dans la cité où les deux forces se regardent en chien et chat.
Parlons justice ici à Kinshasa. La haute cour militaire a condamné hier 4 policiers, dont un colonel, à perpétuité pour torture. Le colonel Samuel Mopepe, le commissaire supérieur principal Nzita Mananga, Diamasi Vimukoko et Machaba ont été reconnus coupables de torture ayant conduit au meurtre du détenu Olivier Mpunga dans leur cachot. Le capitaine Chongo Morgan est le seul acquitté dans ce procès. Jeff Ngoy.
Outre cette condamnation, la haute cour décide également de la déchéance du colonel Mopepe et du commissaire Nzita. Elle décide aussi de la dégradation des deux autres prévenus. Trentenaire, Olivier Mpunga a été arrêté le 16 décembre 2021 pour vol de voiture à la Direction générale des renseignements et services spéciaux de la police. Son corps a été retrouvé sans vie avec des lésions un jour après son arrestation dans l'un des cachots de ses services spéciaux. La famille de la victime avait alors saisi par plainte la justice militaire sur base d'une vidéo devenue virale montrant Olivier en train d'être torturé par ses bourreaux. Au terme de plusieurs audiences en procédure de flagrance, les prévenus sont enfin écroués et condamnés ainsi à indemniser la famille de la victime, partie civile au procès, d'une somme de $80,000.
Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo se disent vivement préoccupés par la programmation à l'Assemblée nationale de la proposition de loi Tchani qui verrouille le poste de président de la République au seul Congolais de père et de mère. Dans une mise au point hier, le secrétaire général de la CENCO a estimé que cette loi menace la cohésion nationale et risque de déstabiliser complètement les institutions du pays et diviser les peuples. Pour Mgr Donancien Cholet, la RDC est déjà suffisamment menacée par la crise sécuritaire. Ajouter à cela une loi qui va davantage diviser le peuple, c'est toute la nation qui sera menacée suite à l'irresponsabilité politique. Michel Kifindangoy.
Ayant dénoncé la toxicité de la loi Tchani depuis plusieurs mois, les évêques de la CENCO s'indignent de sa programmation pour examen, alors que le bureau d'études de l'Assemblée nationale l'avait déjà rejeté avec des arguments solides. Mgr Donancien Cholet.
Cette loi est dangereuse à plusieurs titres. Elle menace la paix sociale parce que les personnes victimes de cette loi, ce sont des personnes portées par les communautés qui les reconnaissent comme étant les leurs. Cette loi est dangereuse même pour ceux qui sont au pouvoir parce que ça risque d'être une bombe contre eux-mêmes.
Pour le secrétaire général de la CENCO, les arguments avancés par ceux qui soutiennent cette loi ne sont pas fondés.
Et ce pays est devenu ce qu'il est aujourd'hui à cause de Congolais de père et de mère. Le sang de Mamadou Ndala est en train de crier contre cette loi-là. Mamadou Ndala, c'est un qui a versé son sang, il n'était pas Congolais de père et de mère. Les Congolais connaissent qui est qui fait quoi. Alors, à eux de juger, je ne pense pas que ce Parlement aura un tel degré de légèreté.
Mgr Donancien Cholet met en garde une telle initiative qui risque, en plus de la crise politique dans l'Est et dans le Congo, de déstabiliser complètement les institutions et exposer toute la nation.
Dans la province du Maniema, ouverture ce jeudi à l'Assemblée provinciale de la session ordinaire de mars. Depuis Kinshasa, le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Maniema a fait savoir que cette session s'ouvre dans un contexte particulier, celui de l'enrôlement des électeurs. Makonga Toboka Iki, Claude, invite la population, surtout ceux qui ne se sont pas encore fait enrôler, à profiter de ces quelques heures qui restent avant la fermeture des portes des centres. Au gouvernement provincial, il demande de rétablir la sécurité et la tranquillité dans la ville de Kindu. On écoute le député Malonga Toboka Iki Claude dans cet extrait choisi par Florence Kizalunga.
L'opportunité nous est offerte pour nous acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter bon retour des vacances parlementaires que nous supposons fructueuses et dont les rapports irrelatifs vont éclairer la lanterne de la représentation provinciale sur les choix de matières à inscrire dans les calendriers de cette session. Dans notre discours de clôture de la session de septembre, nous nous étions fait le devoir à toute humilité d'interpeller notre conscience collective pour que chacun de nous fasse un examen de conscience afin d'évaluer le bilan de cette législature finissante. C'est ainsi qu'à ce stade, nous estimons qu'il est plus qu'impérieux que nous puissions mettre à l'écart nos intérêts personnels, nos calculs partisans et politiciens, afin de regarder dans la même direction en ne privilégiant que l'intérêt supérieur de nos populations. Nous devons donc accorder nos violons dans le strict respect de notre règlement intérieur pour une issue consensuelle et heureuse aux soucis qui touchent actuellement au fonctionnement de notre institution.
En Ituri, environ 300 personnes sont mortes de tuberculose en 2022 sur les 11 796 cas dépistés. Ces chiffres ont été publiés hier à Bounia par le coordonnateur provincial du programme de lutte contre la tuberculose. Face à ce défi, cette structure a lancé depuis hier même à Bounia une tournée de sensibilisation, notamment dans les universités de la place, pour éradiquer cette maladie. Docteur Justin Moukonkole précise que 9 zones de santé, dont celle de Bounia, sont fortement touchées par cette maladie. Il invite la population à renforcer les mécanismes de protection en évitant des endroits clos ainsi que les contacts avec les malades. Justin Moukonkole s'exprime au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Ensemble, nous pouvons mettre fin à la tuberculose en RDC. C'est pour, encore une fois de plus, impliquer tout le monde dans la lutte, étant donné que la lutte contre la tuberculose, c'est une lutte multisectorielle. S'il faut parler des statistiques, il faut noter que en 2022, nous avons réussi à dépister un total de 11 796 cas avec 392 décès. Commençant par l'ISTEM Bounia, nous savons que ce sont des étudiants qui seront des futurs prestataires de demain. Et pour ce faire, nous demandons à la population, dès que vous trouvez un malade ou alors une personne qui tousse, allez directement au centre de santé le plus proche. La meilleure façon de lutter contre la tuberculose, c'est dépister tous ces malades qui se cachent encore à la maison et les mettre sous traitement, afin que nous puissions casser la chaîne de transmission.
Clôture du mois de la femme à Uvira au Sud Kivu, le comité des femmes des médias pour la paix d'Uvira Fizi sensibilise les filles et les femmes à intégrer le secteur des médias et aux responsables des médias à promouvoir les femmes au poste de prise de décision dans leurs organes. Un atelier de réflexion a été organisé le week-end dernier à Kilomoni dans la ville d'Uvira sur l'état des lieux de la situation de la femme dans les médias. La responsable de cette structure, mademoiselle Françoise Boukourou Mouimoulé, a déploré que sur plus de 100 journalistes des médias traditionnels et de la presse en ligne répartis dans Uvira, Fizi, Itombwe et la plaine de la Ruzizi, la femme ne représente pas plus de 5% et toutes n'occupent aucun poste de prise de décision. Mademoiselle Françoise Boukourou est journaliste à la RTNC sous station d'Uvira. On l'écoute au micro des Fiston Goma.
Nous avons organisé une conférence débat qui nous a mis face à face avec les responsables des médias de la place, les responsables des partis politiques, les femmes politiques, mais aussi les acteurs politiques. Vraiment, après les enquêtes que nous avons menées, le constat est amer. Il n'y a pas une seule femme qui occupe un poste de prise de décision. C'est une situation très choquante et nous sommes dit que les responsables des médias devraient revoir cette situation parce qu'il y a des femmes journalistes compétentes qui travaillent vraiment au même point d'égalité que les hommes. C'était une façon d'inciter les responsables des médias, mais aussi inciter la communauté, parce qu'ici, chez nous, les femmes journalistes sont stigmatisées, il y a des stéréotypes autour de la femme des médias. C'est un travail comme tant d'autres, donc que la communauté nous soutienne, que cette communauté même encourage les femmes, les filles à devenir des journalistes. Le journalisme, c'est le quatrième pouvoir, et nous pensons qu'avec nos médias, nous pouvons accompagner les autres femmes qui ont des ambitions politiques.
Par ailleurs, le comité des femmes des médias pour la paix d'Uvira Fizi appelle le partenaire intervenant dans le secteur des médias à assister leur structure locale naissante pour l'obtention d'un statut juridique.
Actualité internationale.
Un tribunal sénégalais a condamné ce jeudi l'opposant Ousmane Sonko à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre d'un ministre, une peine qui préserve son éligibilité pour la présidentielle de 2024, selon ses avocats. Monsieur Sonko, 48 ans, devait répondre de diffamation, injures et faux contre le ministre du Tourisme, Mamembai Niang. Outre les 2 mois de prison assortis de sursis, le tribunal a condamné Monsieur Sonko, absent à l'audience, à verser 200 millions de francs CFA, soit 300 000 euros au ministre, mais il l'a relaxé des délits d'injures et de faux.
L'invité.
Lancement ce jeudi en Boujimaï de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Plus d'un million d'enfants de 0 à 59 mois répartis dans 317 aires de santé sont attendus au cours de cette campagne de vaccination. Le médecin-chef de division provinciale de la santé demande aux parents de garder leurs enfants à la maison pendant ces 3 jours des campagnes de vaccination. Docteur Bonheur Tchitekou, chef de division provinciale de la santé, a été joint au téléphone par Esther Ndalafina. Suivez.
Bonjour, docteur Bonheur Tchitekou. La division provinciale de la santé organise la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Qui sont concernés par cette campagne?
Bonjour, madame. Merci beaucoup de votre question. Effectivement, la campagne de vaccination contre la poliomyélite va être lancée ce jeudi. Et ce sont beaucoup plus la population âgée de 0 à 59 mois. Donc, tout enfant âgé de 0 à 59 mois, même un enfant qui vient de naître aujourd'hui va être concerné par cette vaccination.
Combien d'enfants sont attendus à cette campagne?
Oui, bien sûr, nous nous attendons à vacciner plus de 1 070 002 enfants de cette tranche d'âge précitée. Ce sont ces enfants-là qui vont être vaccinés.
Tous les intrants sont-ils disponibles?
Bien sûr, nous avons reçu tous les intrants. Depuis 3 semaines et au jour d'aujourd'hui, toutes les 317 aires de santé ont été satisfaites à 100%. Donc, tous les intrants sont déjà entreposés dans toutes les aires de santé et les aires de santé n'attendent que les go pour déjà commencer à vacciner ces enfants.
Quelle sera la stratégie pour cette campagne, docteur?
La stratégie qui va être utilisée, c'est la stratégie porte-à-porte. Ça veut dire que les vaccinateurs vont passer dans chaque ménage pour vacciner chaque enfant cible. C'est ainsi que nous profitons de cette occasion pour demander à tous les parents et gardiens des enfants de rester à la maison avec les enfants pour les faire vacciner.
Quelle stratégie allez-vous adopter pour qu'il n'y ait pas d'enfants perdus de vue?
Il y a multiples stratégies qui vont être mises en place pour que chaque enfant puisse bénéficier de son vaccin, donc pour qu'il n'y ait pas de perdu de vie. Donc avant la campagne, il y a d'abord ce que nous appelons pré-marquage. Donc c'est le dénombrement ou l'identification de chaque enfant qui va répondre à la cible, donc les enfants de 0 à 5 à 9 mois. Les vaccinateurs ou les relais communautaires ou les membres des cellules d'assises communautaires vont passer dans chaque ménage avant la campagne pour identifier chaque enfant cible. Et cela va se manifester par le cercle. Aujourd'hui, là, si vous passez dans chaque ménage, vous allez trouver que soit sur les murs, soit sur la porte, soit sur la barrière pour ceux qui ont des clôtures, vous allez trouver que les vaccinateurs ou les prestataires ont déjà dessiné un petit cercle qui est divisé en 4 parties. Vous trouverez des chiffres marqués dans les 2 parties de gauche. Et les chiffres en bas signifient le nombre d'enfants qui sont déjà identifiés. Et pendant la campagne, premièrement, lorsque les vaccinateurs vont passer dans les ménages, ils vont s'intéresser aux enfants qui ont déjà été identifiés en se référant au cercle de pré-marquage. Et lorsque ils vont remarquer qu'il y a sur 3 enfants ou 2 enfants ou 5 enfants, il y a 1 enfant ou 2 qui manquent ou autant d'enfants qui manquent, ils vont prendre rendez-vous avec les parents ou gardien des enfants pour repasser afin de vacciner ces enfants-là. Deuxièmement, lorsque les vaccinations sont déjà passées, les membres des cellules d'assises communautaires vont passer aussi en deuxième position pour rechercher effectivement les enfants qui sont passés inaperçus. Troisièmement, nous avons aussi les superviseurs de proximité, les superviseurs d'axe dans les zones de santé, et même les superviseurs provinciaux et les superviseurs nationaux, les consultants de l'OMS et de l'UNICEF qui sont sur place, qui vont aussi passer pour faire le monitorage interne. Ils vont aussi passer dans les ménages avec un type de questionnaire pour identifier ou rechercher également les enfants qui n'ont pas été vaccinés ou qui sont passés inaperçus, afin de les récupérer ou appeler les équipes de vaccinateurs pour venir les vacciner. Et au dernier jour, les équipes vont être beaucoup plus installées au niveau des marchés, le long des carrefours, pour effectivement vacciner les enfants qui ont connu des déplacements avec leurs parents. Donc, les vaccinateurs vont passer même dans des campements, là où les parents sont allés peut-être pour les activités champêtres, afin de vacciner aussi ces enfants-là. Mais aussi, après la campagne, nous avons l'OMS qui va mettre en place les moniteurs indépendants, qui pourront aussi passer dans les ménages et hors ménage pour se rassurer de la qualité de la vaccination.
Merci beaucoup, docteur Bonheur Tshiteko.
C'est moi qui vous remercie, madame.